Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Dire à Timothée, au chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 10, nous allons lire toute cette portion de l'Écriture, alors que seulement un verset ou deux nous intéresse tout particulièrement. Mais j'aimerais lire tout ce passage pour situer bien le contexte. Il y a tant à dire, il y a tant à voir dans l'Écriture, alors que nous la lisons. Seigneur, donne-nous de la comprendre par l'Esprit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Voilà pourquoi nous prions avant de commencer notre repas. Ce n'est pas un rite, c'est véritablement pour demander à Dieu qu'il sanctifie et que ce repas ne soit pas nuisible. Car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Mais repousse les fables profanes, contes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Exerce-toi à la piété. La piété est utile à tout. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les croyants, de tous les hommes, surtout des croyants. Il est le sauveur de tous les hommes. Sachez, ô hommes de la terre, qui que vous soyez, depuis le jour de votre naissance, par votre naissance, vous êtes devenu un homme, et il est votre sauveur. Mais il est particulièrement le sauveur des croyants. Pourquoi? Parce que cet homme a accepté le Seigneur de gloire, et son salut s'est manifesté envers lui. L'autre l'a refusé jusqu'à maintenant. L'autre l'a repoussé jusqu'à maintenant. Il a un sauveur, mais ce sauveur, il ne l'a pas reconnu. Potentiellement parlant, il est sauvé, mais s'il ne l'accepte pas, il ne peut être sauvé. Il y a une part de l'homme et il y a une part de Dieu. Il est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Seigneur, fais de nous des croyants. J'aimerais lire encore avec vous un autre passage qui se trouve dans le psaume 31 et au verset 24. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. Nous avons lu dans le passage de Timothée où l'apôtre exhorte Timothée, exerce-toi à la piété. car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Exerce-toi à la piété. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la marche avec Christ, qui est une marche dans l'amour. Et que cette marche, dans cette marche, par cette marche, il y a un grand bénéfice, il y a un grand avantage, il y a un grand profit. Nous aimons tous le profit, n'est-ce pas? Nous aimons tous avoir de l'intérêt. Et si nous nous lançons dans une entreprise quelconque, quelle qu'elle soit, nous espérons en retirer un avantage, un profit, un pourcentage. Et plus le pourcentage sera grand, mieux nous nous trouverons, plus contents nous serons. Chaque activité humaine demande un profit. Si une activité humaine, quelle qu'elle soit, n'a pas de profit, la personne n'est pas motivée. Elle se désespère, elle perd espoir, elle cherche un autre moyen pour avoir un profit. Quand il y a des pertes et que des pertes, il y a banqueroute et il y a malheur. Dans toute la société humaine, on s'attend à pouvoir bénéficier d'un fruit. Si nous plantons un champ, nous nous attendons à en récolter du fruit. Si nous mettons notre sueur dans une entreprise quelconque, nous attendons à retirer un bénéfice pour nous. Si nous nous lançons dans une entreprise quelle qu'elle soit, nous nous y lançons simplement parce que nous espérons en pouvoir en retirer quelque chose de satisfaisant pour nous. Plus de connaissances, plus de savoir, plus d'expérience, plus de revenus, plus de confort, plus de quelque chose. Nous cherchons un plus. Certains aiment l'aventure et se lancent dans l'aventure, dans l'exploration, dans des reportages, que sais-je, parce qu'ils trouvent un profit à l'intérêt qu'ils portent dans tel domaine ou tel autre domaine. La vie est une aventure, et la vie est belle justement parce qu'elle est une aventure. La vie est un combat, et ce combat nous devons l'engager pour vaincre. Et ici nous sommes débattus, nous avons perdu tout intérêt. Donc la victoire est un profit, la victoire est un intérêt, et quelque chose duquel nous allons tirer une satisfaction, nous allons tirer un profit. Mais nous savons que tous les profits que nous pouvons avoir sur cette terre, tous les bénéfices, tous les avantages, ne sont que temporaires, ne sont que poussière, et qu'ils passent, et que le profit que nous avons eu aujourd'hui, demain n'existera plus, et la bataille sera de nouveau engagée pour une nouvelle tranche de profit. Mais voilà, la vie s'en va à tire d'aile. La vie s'en va et les forces diminuent. Et le profit peut-être diminue aussi. Et la conjoncture, que dirais-je, c'est un mot classique aujourd'hui. La conjoncture nous fait bien souvent perdre le profit. L'abeille, la Bible nous parle de profit également. Et j'aimerais vous parler du profit que nous pouvons tirer en marchant dans la piété. En marchant dans la piété, la parole de Dieu nous encourage à faire de l'amour de Dieu en nous notre plus grand désir et le but de nos recherches assidues. Depuis plusieurs semaines déjà, dimanche après dimanche, nous parlons de cet amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et, secondement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout découle de là. Tout découle de là, et la parole de Dieu nous exhorte donc à mettre cet amour en action. Et cet amour mis en action amène des conséquences, toutes sortes de conséquences dans notre vie. C'est la raison pour laquelle nous avons parlé du pardon qui est nécessaire et qui est indispensable à la manifestation de l'amour. Nous avons parlé de l'oubli même de l'offense qui a été faite. Nous avons parlé de laisser de côté tout ce qui est rancune, amertume et autre chose qui nous détruisent. Mais le sujet est loin d'être épuisé. Dieu nous exhorte dans sa parole d'avoir un profit, de chercher ce profit. Et ce profit, c'est un profit qui demeure. Ce n'est pas quelque chose qui passe. La marche dans l'amour est bénéfique. Nous en tirons un bénéfice. Nous en tirons des valeurs impérissables. Quelque chose qui demeure, quelque chose qui reste. Et nous devons en faire nos recherches assidues en tant que chrétiens. En tant que chrétiens, à développer en nous ces valeurs. Ces valeurs desquelles nous parlons, j'espère, ô Dieu, que je ne parle pas rien que pour parler. J'espère, ô Dieu, que ce ne sont pas que des discours qui plaisent plus ou moins aux oreilles des hommes et des femmes, mais que ce soit une connaissance qui transforme la vie et qui donne une vraie valeur à la vie chrétienne. Trop de vies chrétiennes sont sans relief, sans changement. Trop de vies chrétiennes ne sont aucune théorie, que quelque chose qui est pratiqué comme cela le dimanche et oublié le reste de la semaine. Non, nous avons une influence à exercer sur notre monde. Je sais que mes discours ne peuvent pas changer grand-chose si Dieu n'y est pas. Et c'est pour cela que je pleure devant lui et je ne cesse de pleurer. Je ne cesse de pleurer bien souvent la nuit alors que le sommeil est parti. Je parle, je dis, Seigneur, Seigneur, si toi tu n'y es pas, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Frères et sœurs, Dieu veut nous parler des vraies valeurs qui ne périssent pas, du profit, du bénéfice, de l'avantage qu'il désire nous donner. Nous voulons et nous désirons et nous nous attendons à avoir un profit, un avantage dans toutes nos entreprises ici-bas sur la terre. Et dans l'entreprise chrétienne, il y a un avantage. Il y a un bénéfice. Il y a un profit. Pourquoi les hommes et les femmes qui courent après l'argent d'une façon si acharnée ne courent pas plus après cet avantage éternel qui ne périt pas? Pourquoi? Pourquoi te lèves-tu le matin, te couches-tu tard le soir? Pourquoi le dimanche à la semaine tu travailles sans arrêt? Pourquoi tu ouses ton corps pour chercher un profit qui périt alors que Dieu t'offre un profit, un avantage, un bénéfice, un investissement qui va au-delà de cette vie et qui ne périt pas et qui ne périra jamais? Seigneur, mais voilà, nous sommes aveuglés par l'ennemi. Il y a une raison pour laquelle Dieu veut que l'amour soit une priorité dans notre vie. C'est parce qu'il veut le meilleur pour nous. Et l'amour est sa nature. Nous sommes appelés à lui ressembler, c'est pas vrai? La Bible nous en parle. À être comme lui, à lui ressembler, à être à son image. Nous sommes appelés à cela. C'est vrai que la perfection que nous cherchons, nous ne nous sommes pas encore parvenus. Puisque même l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, alors qu'il écrivait aux Éphésiens, à l'épître aux Éphésiens, il écrivait dans sa prison à la fin de sa vie, il disait, je ne suis pas encore parvenu à la perfection. Mais, oublions ce qui est derrière, je cours en avant vers le but. Quel est le but? Être à l'image de Jésus-Christ, lui ressembler. Il est vrai que tant que nous sommes dans ce corps de chair, il y a encore la marque adamique en nous, la marque adamique en nous de la chair. Et c'est une lutte continuelle, mais dans cette lutte, nous progressons vers la perfection. Nous nous sanctifions, nous avançons, nous progressons. Si nous ne progressons pas, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Non, nous ne voulons pas le statu quo, nous voulons l'avance. Nous voulons avancer sur cette voie. Sur cette route, jusqu'au jour enfin où nous serons débarrassés de ce corps de chair pour toujours. Nous serons débarrassés de ce corps et nous aurons un nouveau corps tel qu'il a eu lors de sa résurrection, un corps spirituel. Et ce corps alors sera à l'image du sien, puisqu'il est le premier-né d'entre les morts. Et nous serons arrivés donc enfin à cette image parfaite, qui n'est pas encore parfaite tant que nous sommes dans ce corps de chair, mais qui, à ce moment-là, deviendra parfaite. Oh, quel bénéfice et quel profit! Il y a de merveilleux bénéfices et des résultats positifs pour nous si nous marchons dans l'amour. Frère, nous devons bien nous dire que tout ce que Dieu nous demande dans sa parole, que tout ce que Dieu exige pour nous dans notre marche, n'est pas pour nous ennuyer, n'est pas pour nous embêter. Voilà un mot fort, mais je le dis. Non, mais c'est pour notre bénéfice et c'est pour notre bien. Pourquoi nous conduisons-nous de façon à penser, à manifester que c'est bien embêtant cette vie chrétienne qui exige que... Non, la vie chrétienne n'exige rien. Dieu laisse libre. Elle n'exige rien. Mais elle dit, si tu veux le bénéfice, si tu veux la bénédiction, si tu veux ta place là-haut, si tu veux lui ressembler, voilà le chemin. Il n'exige rien. Mais il avertit. Et il laisse le libre choix. Avons-nous fait le choix? Il y a un profit. Il y a un merveilleux bénéfice. Il y a des résultats positifs pour nous si nous marchons dans l'amour. Notre santé physique et spirituelle y trouvera bénéfice. Je dis bien santé physique et santé spirituelle. Dans 1 Timothée 6:6, il est dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Source de gain. Ah, vous voulez gagner? Voilà. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Autrement dit, vous marchez dans la piété, vous marchez dans la droiture, vous marchez dans la pureté. C'est votre choix. Vous avez décidé de plaire à Dieu. Eh bien, le Seigneur dit, c'est une source de gain. Dans la piété et le contentement. Il y a là guérison. Il y a là santé. Beaucoup de gens cherchent la guérison de leur maladie. Et ils cherchent la santé, mais ils ne l'obtiennent jamais. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas suivi la voie normale. Il veut la guérison et la santé. Sans se soumettre aux exigences de Dieu. Peut-être l'homme du monde peut réussir dans ses entreprises tout en faisant ce qu'il veut faire sans s'inquiéter de Dieu. Dieu non plus ne s'inquiète pas de lui. C'est-à-dire, Dieu s'inquiète de lui dans la mesure où il lui présente l'Évangile et il l'appelle à lui. Mais cet homme fait ce qu'il veut et il semble réussir. Tandis que l'homme de Dieu, il a des priorités auxquelles il doit se soumettre avant de réussir. Et c'est ça souvent que nous n'avons pas compris. Il y a des exigences auxquelles nous devons nous soumettre. Nous prétendons que nous sommes chrétiens. Nous prétendons que nous sommes nés de nouveau. Et nous ne plaçons pas les priorités à leur place, à leur bonne place. Nous sommes malades, nous n'avons pas de santé, nos affaires marchent mal, rien ne prospère, alors que ceux qui sont tordus dans le monde, qui sont menteurs et voleurs, prospèrent. Et nous nous posons la question, mais as-tu placé les priorités à leur bonne place? Frères, sœurs, si nous marchons dans l'amour, il y a la guérison et il y a la santé. Il y a la prospérité. C'est le chemin de Dieu pour la prospérité dans tous les domaines. Domaine physique, domaine matériel, domaine entreprise, domaine familial, que sais-je encore. Il y a là la guérison et la santé. C'est quelque chose qui est grandement profitable que de marcher avec Dieu et d'obéir à ses commandements, que de se soumettre à sa volonté et de marcher dans l'amour. Nous avons lu ces exhortations de Paul à Timothée. Il est dit que nous devons nous exercer à la piété. Exercer veut dire exercice, c'est pas vrai? Si nous prenons le dictionnaire, voilà exactement la définition de piété dans le dictionnaire. La définition est celle-ci. C'est la piété, est une vertu qui porte à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. J'aime ça. C'est dans le dictionnaire, frères et sœurs. La piété est une vertu qui porte à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. Comment lui rendre l'honneur à ce Dieu? D'abord en l'aimant. Point de départ de la piété. Ensuite, comment l'aimer? En obéissant à sa parole, je prouve mon amour à Dieu par l'obéissance. Et ça, forcément, si j'aime Dieu et si j'aime sa parole, j'aimerai mon prochain. Nous l'avons lu tout à l'heure dans 1 Timothée 4:8. Exerce-toi à la piété. C'est-à-dire à cette vertu qui porte à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. Exerce-toi à rendre honneur à Dieu. Lui rendre honneur, c'est l'aimer. L'aimer, c'est d'obéir à ses commandements. Exerce-toi dans cette tâche. C'est là l'exhortation de Dieu à tous les hommes. Pour nous, il y a là profit. Pour nous, il y a là bénéfice. Pour nous, il y a là bien-être et abondance. Exerce-toi à la piété. Pour nous, il y a là investissement. Oui, investissement. Oh, certainement, beaucoup seront étonnés lorsqu'ils se tiendront devant Dieu. Ces hommes, ces femmes, que l'on pense être insignifiants, parce que dans notre société, ils ne sont pas reconnus. Que l'on pense être insignifiants, parce que dans l'Église, eh bien, ce ne sont pas, disons, des gens en vue, des genres de champions qui sont là avec des dons particuliers à manifester devant les autres. Je pense que quand on se tiendra devant Dieu, on sera étonné. Beaucoup d'entre nous, nous serons étonnés. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons fait pour sa gloire, selon la fidélité de la tâche, dans la tâche qu'il nous a confiée, c'est un investissement. Et quand nous serons là-haut, nous verrons que notre compte est bien plus grand que nous ne pensions jamais. Tandis que d'autres qui s'imaginent avoir un compte énorme, n'auront presque rien. Parce que leur motivation était fausse. Ils faisaient des grands exploits. Ils étaient considérés comme de grands champions. Ils avaient la parole devant de grandes foules. Et pourtant, ils n'ont pas été fidèles dans les petites choses. Et s'ils ont fait ces grands exploits, ce n'était pas à cause d'eux-mêmes, mais à cause de la grâce de Dieu et rien de plus. Et ils seront déçus. Oui, il y a un investissement. Et lorsque nous serons devant Dieu, nous serons étonnés. Mais Seigneur, pourquoi? Et la Bible me dit que quand nous recevrons notre récompense à cause de notre fidélité et que nous verrons sa gloire et que nous verrons ces choses extraordinaires et merveilleuses, nous dirons « Seigneur, 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 je ne suis pas digne » et nous jetterons notre couronne à ses pieds en lui disant « Toi seul, tu es digne, Seigneur ». Comment se fait-il que tu désires me récompenser? Comment se fait-il que tu désires me donner quelque chose et que tu as mis à mon compte tant de trésors là-haut dans la gloire? Je ne comprends pas, Seigneur. Mais il dira, viens, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai de plus grandes choses encore. Fidélité! Pour nous, il y a là un profit. Pour nous, il y a là un bénéfice. Pour nous, il y a là un bien-être. Pour nous, il y a là une abondance. La piété, c'est quoi? C'est aimer Dieu. Il y a là une grande récompense, un profit, un bénéfice. Comme dit l'apôtre, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Pourquoi donc? Nous voyons les champions de ce monde, dans quelque discipline que ce soit, ils s'exercent des heures et des heures, 8 heures par jour, 10 heures par jour, 12 heures par jour, des exercices intenses pour développer leurs réflexes, pour développer les muscles, pour développer l'équilibre. Suivant la discipline qu'ils ont choisie, regardez ces gymnastes, vous les avez vus déjà à la télévision, des corps bien bâtis. Ils font des sauts extraordinaires. Ils se retrouvent sur leurs jambes. Regardez-les aux barres parallèles. Regardez-les aux anneaux. Ils font des exercices incroyables. Mais sachez que ces hommes-là, arrivés après 30 ans, c'est fini. Le corps s'use. C'est fini. Ils ont fait des exercices corporels, mais ces exercices corporels sont utiles à peu de choses. Quand on voit dans la discipline du cirque, par exemple, ces acrobates qui font des choses absolument incroyables, incroyables, on ouvre des yeux comme ça, grand. Mais pourquoi arrive-t-il ? À force d'exercices, des heures par jour, des années durant, avec combien de déboires, avec combien de chutes, avec combien de bosses, enfin ils arrivent, simplement pour nous réjouir, 15 minutes, 20 minutes, vanité du des vanités, poursuite du vent, voilà ce que c'est. Moi, quand je vois ces performances, je les vois, mais ça m'enseigne, mes frères et sœurs, ça m'enseigne. Et je pense combien d'heures, de journées, d'années passées pour cela. Et quand tu auras passé déjà 30 ans, on t'appellera vieux. Il faudra que tu cèdes la place à un autre. Tu n'auras plus qu'un souvenir de ta gloire, qu'un souvenir de ta gloire du passé. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Pourquoi ? Parce que le profit qu'on en retire n'est que pour peu, peu de temps, peu de résultats. Une gloire éphémère, des applaudissements éphémères, un court temps. Mais, l'apôtre dit, l'exercice à la piété est utile à tout. Est utile à tout. Pour la vie présente, pour la vie ici-bas sur cette terre, pour les années que nous vivrons dans ce corps de chair. Mais en plus de cela, est utile à la vie à venir, à la vie éternelle. C'est un investissement qui va durer. La piété, l'amour du prochain, l'amour de Dieu, le service, la fidélité, la piété, en un mot, est utile à tout, dans la vie présente et dans la vie à venir. Frères, sœurs, il y a plus que cette vie. Oh, quel soulagement! Il y a plus que cette vie, et croyez-moi, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous, jeunes gens. Je suis un peu moins jeune que vous, mais des fois je pense en moi-même, combien d'années me reste-t-il? Et ma vie écoulée me semble très, très courte. Combien d'années me reste-t-il? Et je demande à Dieu, quel que soit le nombre des années qui me restent, ô Dieu, qu'elles soient fructueuses pour ton royaume. Donne-moi de servir jusqu'au bout. Je ne veux pas être un vieillard impotent, tremblant sur ses jambes, à moitié aveugle et sourd. Non, je ne veux pas. Seigneur, tu m'enlèveras rassasié de jour, avec une bonne vue et une bonne santé. Et donne-moi de servir jusqu'au dernier jour, ô Dieu. Si, Seigneur, tu décides de m'enlever, un jour en plein milieu de la prédication, que toute l'Église le loue, et disent, il a bien terminé sa course. Tomber dans le combat de la foi, la vie c'est peu de choses, frères et sœurs. Souvent je pense à moi-même, j'en parlais tout à l'heure avec ma femme entre les deux cultes. Combien d'années nous reste-t-il? Je voudrais beaucoup, beaucoup, que le Seigneur revienne avant que je meure dans ce corps physique. Ça serait formidable. Mais je ne sais pas s'il va m'accorder ce privilège. Peut-être que je vais mourir comme un n'importe quel autre homme. Si telle est sa volonté, eh bien, cette volonté est parfaite et bonne. Et ce sera une promotion. Mais ceci pour vous dire que nous sommes tous éphémères sur cette terre et nous devons être conscients que nos heures sont calculées. Et chacun de nous, nous sommes des condamnés à mort. Nous pouvons être jeunes, mais des jeunes partent déjà si rapidement. Si rapidement. Frères, sœurs, il y a plus que cette vie physique. Pourquoi vivons-nous comme si nous étions et nous serions toujours sur cette terre? passe. Elle passe très vite. Il y a une autre vie qui arrive, une vie qui ne finira jamais. Investissons dans le meilleur, dans les vraies valeurs. Prenons ce qui nous revient comme bénéfice. Marchons dans l'amour. Aimons Dieu, aimons notre prochain. Et dans cette mesure où nous marchons dans l'amour, alors nous en tirerons un grand bénéfice. Donc la piété, qui consiste à marcher dans l'amour, est profitable à notre vie physique et à notre vie spirituelle et à notre vie éternelle. La piété est profitable. Piété égale marcher dans l'amour, marcher dans la fidélité. C'est profitable. Je plains ces gens qui disent « ça ne profite pas d'être chrétien ». Pourquoi ça ne profite pas pour eux? Parce qu'ils ont des cœurs partagés, voilà pourquoi. C'est parce qu'ils essayent. Si ça ne réussit pas, eh bien, je ferai autre chose. Si tu essayes, eh bien, sache qu'à l'avance, tu es battu. Si tu veux être chrétien, tu t'y lances à corps perdu. Et comme quelqu'un qui se jette à l'eau. Si je dois tout perdre, je perdrai tout, mais j'ai décidé de servir Dieu. Et tu verras, tu vas profiter. Il y a un grand profit à cela. Ne fais pas de faux calculs. Vivre pour Dieu veut dire garder ses commandements. Dans la nouvelle alliance, nous l'avons déjà vu, il n'y a qu'un seul commandement. Et ce seul commandement les inclut tous. Nous en avons parlé largement dans les dimanches, dans tous ces dimanches passés. Ce seul et unique commandement qui simplifie grandement la loi de Moïse qui nous semble tellement compliquée. Et le Seigneur dit, si tu obéis à ce seul commandement, automatiquement tu obéis à tous les autres. Quel est ce commandement? Tu aimeras ton prochain. Pourquoi? Parce qu'en aimant le prochain, j'aime Dieu. Parce que l'amour du prochain passe d'abord par Dieu. Si j'aime Dieu, j'aime mon prochain. Et là se trouvent concentrés tous les commandements de la loi, qui les inclut tous. La loi de l'amour est cela que nous devons faire et profitable, bénéfice, enrichissant. La loi de l'amour est une loi de vie et de santé pour nos corps. Toi, malade, pense à cela. Si vous gardez de la rancune, cela va vous faire mal, va vous détruire, va vous rendre malade. La rancune, l'amertume, tout ça, ce sont des choses qui nous rendent malades. Méfions-nous de ce sentiment comme d'une vipère. Méfions-nous de ce sentiment comme d'un poison. C'est vrai qu'on t'a fait du mal. C'est vrai qu'on t'a critiqué. C'est vrai qu'on a sali ton nom. C'est vrai tout cela. Jette tout cela au pied de la croix. Ne garde pas l'amertume. Ne garde pas l'amertume. Ne garde pas la rancune. Car ceci te détruira. C'est un poison qui te rendra malade. La rancune et le refus du pardon sont destructeurs et rendent malades. Je crois qu'il y aurait beaucoup plus de gens guéris dans nos églises, guéris de leur maladie, si d'abord ils se débarrassaient de tout ce poison, qui empoisonne leur corps. Poison de la rancune, de l'amertume, de ces choses qu'on remue continuellement dans son cœur. On repasse. Je dois aimer. J'ai mon ennemi. Bon, je vais l'aimer. C'est pas comme cela que ça se passe. Tu veux la prière pour la guérison dans ton corps? Commence à pardonner ton prochain et à oublier. Pas de guérison sans cela. Cessez également de critiquer votre prochain. Cela vous détruira. Oh, la langue! Oh, la critique! Certaines fois, la critique est constructive, mais trop souvent, elle est destructive. La critique constructive est nécessaire. La critique destructive fait du mal au prochain et vous fait du mal à vous-même. Quand vous marchez dans la piété, quand vous marchez dans l'amour, vous gardez votre langue, Celui qui marche dans l'amour et dans la piété garde sa langue. Il est maître de sa langue. Vous la contrôlez, car autrement, vous œuvrez à votre destruction physique. Vous tomberez malade. Destruction physique et spirituelle. J'aimerais lire avec vous ce passage qui se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, versets 8 à 9, où il est dit « Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, remplis de compassion, remplis d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. » Autrement dit, vous rendez insulte pour insulte, vous rendez mal pour mal, vous n'avez pas d'amour fraternel, vous n'avez pas de compassion et d'humilité. Alors, vous n'hériterez pas de la bénédiction. Autrement dit, si vous marchez dans l'amour, vous en tirez un grand bénéfice. Si vous ne marchez pas dans l'amour, vous perdrez beaucoup. Et les bénédictions vous seront refusées. Ça, c'est la piété. C'est ainsi que l'on honore l'Éternel. Il est dit dans Proverbes, chapitre 21, verset 23, « Qui veille sur sa langue préserve son âme. » Oh, quelle sagesse! Quelle sagesse! Qui veille sur sa langue préserve sa vie. L'âme, c'est la vie. La vie, c'est l'âme. Si tu veux préserver ta vie, si tu veux avoir de longs jours, si tu veux avoir le bonheur, veille sur ta langue. Ça, c'est une grande sagesse. Celui qui garde sa langue, garde sa vie. Cette langue doit être soumise à l'homme intérieur, à l'homme né de nouveau, en Jésus-Christ, recréé par Christ. Donc, que de mal peut être provoqué dans le monde par la langue. Que de mal peut être provoqué dans l'Église par la langue. Jacques nous en parle, j'aimerais lire ces passages avec vous, dans Jacques au chapitre 3. Rafraîchissons notre mémoire. À partir du verset 5, il dit « De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. » Le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la gêne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine de venin mortel, une vipère. Elle détruit le corps. Elle vous rend malade. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Un manguier peut-il produire des ananas et un ananas produire des mangues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. La langue. Nous parlons de ce qui est bénéfique. Mais, frères, sœurs, nous n'aurons rien de bénéfique si notre langue empoisonne notre vie et empoisonne la vie des autres. Que de mal dans le monde, que de mal dans l'Église à cause de la langue. Tout le monde veut s'occuper des affaires de tout le monde. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons trop souvent dans notre Église, de la borne? Soyons honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes. Nous ne sommes pas parfaits encore. Que de bavardage, que d'ingérence, que dans les affaires des autres, que de curiosité malsaine. Pourquoi t'occupes-tu des affaires de la vie de l'autre? Pourquoi t'occupes-tu des affaires privées de l'autre? De toute façon, la perception que tu en as n'est pas juste. Et même si c'est juste, veux-tu détruire ton frère pour cela? On veut se rendre intéressant. On pense que c'est intéressant de montrer aux autres qu'on sait alors qu'ils ne savent pas. Tu sais pas quoi? Tu sais pas ce que j'ai entendu dire de celui-ci ou de celle-là? Tu sais pas, mais qui c'est qui te l'a dit? Oh, c'est le frère tel et tel qui l'a eu, de la sœur tel et tel qui l'a entendu, de l'autre là-bas, qui? On parle de quelque chose dont on ne connaît pas le sujet réel. De quelque chose qu'on colporte à gauche et à droite, comme si c'était sûr, et on fait mal à son prochain, on n'aime pas son prochain, on détruit son prochain, on le blesse, on lui fait du mal. Ça, ce n'est pas la piété, ça, ce n'est pas l'amour. En rapportant de faux bruits, ou des bruits qui ont été déformés, quand on revient à l'origine, ah, ce n'était que ça. Oui, ce n'est que ça. Et avec que ça, tu as détruit ton frère. On manque d'amour. Et les choses négatives, même les choses négatives réelles qui se sont véritablement passées, est-ce bien de les colporter à gauche et à droite? Quand tu les colportes, tu manifestes de la haine pour ton frère. Tu veux que tout le monde sache qu'il a péché. Tu veux que tout le monde sache qu'il n'est rien. Et tu penses ainsi, toi, t'élever au-dessus de tous. Alors que tu fais preuve d'un abaissement honteux. On manque d'amour. Ne détruisons pas notre prochain, frère, sœur. Marchons dans l'amour. Dans l'amour. L'amour demande de l'effort de notre part. 1 Pierre 3:10 nous dit ceci. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, et voir des jours heureux. Ah, ça c'est une clé, écoutez bien. Vous aimez la vie. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Soulignez ça dans votre Bible. Mettez ça sur un carton dans votre maison. Que ceci vienne à votre mémoire chaque jour quand vous sortez de la maison. Gardez votre langue, qu'elle ne soit pas une langue de vipère. Pour détruire le prochain. Dans Proverbe 17, 29, il est dit, la langue perverse tombe dans le malheur. La langue perverse tombe dans le malheur. Gardez sa langue, c'est aimer la vie. Trop parler, médire, calomnier, colporter des histoires, y ajouter, exagérer, dire ce qui n'est pas, ce n'est pas aimer son prochain, c'est haïr son prochain, c'est détruire, c'est salir, c'est abaisser, c'est ruiner. Tu vas appeler mon frère, je t'aime, ma sœur, je t'aime, et ta langue le détruit. Tu es en plus un hypocrite, tu es indigne. Trop de cela se trouve dans notre Église. Humilions-nous devant Dieu pour cela. Trop de paroles insensées, trop de discours insensés qui blessent ici, qui blessent là. Et ça revient toujours d'une façon ou d'une autre. Vous en avez souffert, j'en ai souffert. Frères, sœurs, je vous en conjure, vous voulez que cette Église grandisse et qu'elle soit le sel de la terre et que Dieu se manifeste au milieu d'elle. Eh bien, que votre foi soit vécue en vérité. Répandons autour de nous la bonne odeur de Christ. Garder sa langue, c'est aimer la vie. Trop parler, médire, calomnier, colporter des histoires, y ajouter, exagérer, dire ce qui n'est pas, c'est s'empoisonner la vie, c'est empoisonner la vie des autres. Ce n'est pas aimer son prochain, c'est détruire, c'est salir, c'est démolir, c'est ruiner. Dans le psaume 34, verset 13, il est dit, quel est l'homme qui aime la vie? Qui c'est qui aime la vie? Levez la main. Qui aime la vie? Tous lèvent la main. Je cherche quelqu'un qui ne la lève pas. Tout le monde aime la vie. Quel est l'homme qui aime la vie? Quel est l'homme qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, la prolonger? Donc, il y a possibilité de prolonger sa vie. Ah, c'est pas le fatalisme. Oh, je mourrai quand Dieu voudra. Oui, bien sûr, Dieu est le chef. Mais cette vie-là, pourquoi est-ce qu'il l'a? Il l'écourte certaines fois. Vous êtes-vous demandé? Dieu est fatigué de nos mensonges. Dieu est fatigué de notre hypocrisie. Dieu est fatigué de notre manque de courage. Dieu est fatigué de notre laisser-aller. Dieu est fatigué de notre inutilité de vie chrétienne. Dieu est fatigué de notre égocentrisme. Arrivé à un certain âge, je ne dis pas d'espoir. Je vais le reprendre. Je préfère au moins qu'il soit tout juste sauvé que plutôt, si je lui donne plus d'années, il risque d'être perdu complètement. Je l'enlève. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Pourquoi? Jouir du bonheur. Dieu veut que nous jouissions du bonheur. Vous entendez? Dieu ne veut pas que tu sois malheureux. Dieu ne veut pas que tu aies rien à manger à la maison. Dieu ne veut pas que tu n'aies pas de l'argent pour le Minerval. Dieu ne veut pas que tu sois un pauvre miséreux dans une cabane en ruine. Dieu ne veut pas que tu sois vêtu de haillons, en bandier ta subsistance. Dieu ne veut pas ça. Si tu es comme cela, eh bien ton Dieu n'est pas le mien. Peut-être que c'est quand même le vrai Dieu que tu sers, mais seulement tu n'as pas placé les priorités à leur place. Voilà, voilà ton problème. Tu le pries dans ta misère, dans ta pauvreté, tu le pries, mais tu restes dans la pauvreté, tu restes dans la misère. Je ne veux pas dire que certaines fois les enfants de Dieu ne sont pas éprouvés, ils sont éprouvés. Ils sont éprouvés, mais leur père les sort du problème, les sort de la difficulté, lorsqu'ils savent placer les priorités à leur place. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger plus d'années encore pour jouir du bonheur, jouir du bonheur? Il veut que tu jouisses du bonheur qu'il te donne à ton niveau, avec ta femme, avec tes enfants, avec ton travail. Tu aimes ton travail, aime-le, travaille, glorifie Dieu dans ton travail. Pourquoi pas faire un travail honnête, juste et bon. Un homme de conscience. Dimanche dernier, on a parlé sur la conscience. Souvenez-vous de cela. Tout ça se tient, tout ça se tient. Alors, si tu veux cela, le psalmiste dit, préserve ta langue du mal. Ah, préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses, éloigne-toi du mal. La piété, la piété, la piété, c'est quoi? Aimer Dieu, c'est quoi? Obéir à Dieu, c'est quoi? Aimer son prochain. Notre langue a beaucoup à faire avec la qualité de notre vie. Et avec notre longévité, une longue vie. Notre langue, ça, ce petit bout de viande dans la bouche. Notre langue a beaucoup à faire avec la qualité de notre vie et avec notre longévité. Ce que vous dites a à faire avec votre vie longue et heureuse ou a à faire avec votre vie courte et malheureuse. Ce que vous dites influencera le courant de votre vie. Préserve ta langue du mal. L'amour refuse la calomnie. L'amour ne dit pas de mal des autres et cherche la paix avec tous. Voilà ce que c'est que l'amour. Chrétien, celui qui pardonne ne parle plus du mal qui lui a été fait. La rancune, il ne la connaît pas. Et en plus de cela, il aime malgré tout, envers et contre tout. Encore une parole de sagesse dans le Saint-Livre, Proverbe 12-18. Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée. Vous voyez? Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée. Mais la langue des sages apporte la guérison. Waouh! S'il vous plaît, soyez des hommes et des femmes qui guérissent par la langue du sage qui est dans votre bouche. Si tu veux être en bonne santé, garde ta vie. Si tu veux avoir une longue vie et le bonheur, garde ta langue. Il n'est pas agréable à un homme d'être malade. Nous avons tous connu à un moment donné ou à un autre dans notre vie d'être malade. Et nous avons eu besoin des médecins. Merci, médecins, pour ce que vous faites. Mais vous ne faites pas tout. Le médicament peut vous soulager, mais trop souvent, il ne guérit pas. Pourquoi? Pourquoi? On croit à la guérison en Jésus. On cherche l'imposition des mains. Et bien souvent, l'imposition des mains est plus ou moins considérée comme un genre de, je ne sais pas moi, un genre de magie, quoi, pour le dire, dans la pensée de beaucoup de gens. Nous voyons des gens qui courent ici et là, qui traversent même les frontières pour avoir un grand évangéliste qui a un don spécial, pour qu'il prie pour eux. J'ai entendu l'histoire de combien d'hommes et de femmes qui ont couru vers tous les grands évangélistes, à toutes les grandes campagnes, pour avoir, ne serait-ce qu'un toucher de cet homme de Dieu. Mais pas de guérison. La guérison divine n'est pas une magie, frères, sœurs. La guérison divine pour le chrétien a des conditions. Vous verrez des païens dans des grands auditoires, dans des grandes campagnes, être guéris comme ça, alors qu'ils sont encore païens. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut révéler sa gloire et les attirer à lui, leur montrer son amour. Mais le chrétien, il connaît l'amour de Dieu, il connaît les conditions. Dieu est plus exigeant envers toi, chrétien. Obéis aux conditions. On croit à la parole, on confesse la parole. Je suis malade, Seigneur, je crois dans tes meurtrissures, j'ai la guérison. On confesse la parole, il y a la foi, c'est indiscutable, la foi est là. Mais on n'arrive pas à faire agir la foi et on reste malade. Pourquoi? Je pense qu'à ce moment-là, il nous faut faire un examen. Cet examen doit être fait par nous-mêmes, ce n'est pas un autre qui doit nous l'imposer. Faites attention à cela, je ne crois pas à ces gens qui disent « Tu n'es pas guéri, tu as péché ». Non, parce que là, vous condamnez. Vous condamnez. Chacun doit faire son examen devant Dieu. Avec humilité, faisons notre examen. Quelle est notre marche dans l'amour? Y a-t-il un manque de pardon dans ma vie? De la rancune peut-être? La langue, ma langue, peut-être répand-elle du poison, des calomnies, de l'exagération, de la malice, de la médisance, des critiques destructives? Peut-être que j'ai manqué par mon parler, c'est vrai, je suis trop bavard, je suis trop bavarde. Oh, la langue. Il y a bien des problèmes qui seraient évités dans l'Église si on savait maîtriser ce petit bout de viande qui est là dans la bouche. Tout cela rend malade. Oui, quand on ne sait pas tenir sa langue, on s'empoisonne le corps et on devient malade et on empoisonne les autres. Celui qui garde sa langue garde sa vie. Écrivez ça dans votre Bible, écrivez ça dans votre maison. La langue exprime ce qu'il y a dans le cœur. Et ce que votre langue exprime n'est pas beau. Parce que ce qu'il y a encore dans le cœur n'est pas beau. Il faut un changement. Il y a du poison. Dieu veut répondre, mais d'abord, il veut répondre. Il veut te guérir. Il veut te donner le succès. Il veut te faire prospérer. Mais d'abord, chasse le poison qui détruit. Écoutez. Une autre parole de sagesse. 1 Pierre 3, 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ah, critique, calomnie, médisance, raconter des histoires fausses sur les autres, se mêler des affaires des autres, se mêler de leur vie privée, des choses qui ne vous regardent pas. C'est mal faire. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Voilà pourquoi Dieu ne répond pas à ta prière. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Ceux qui font le mal ne sont pas justes. Ce sont des injustes. Dieu les leur résiste. La face de l'Éternel est contre ceux qui font cela. Si vous marchez dans l'amour, vous êtes des justes. Que ce soit votre ambition, s'il vous plaît. Alors, ses oreilles sont attentives à vos prières. Si vous êtes juste, il vous écoutera. Si vous êtes juste, il répondra. Alors, posez-vous cette question maintenant. Suis-je juste, Seigneur? Si vous êtes juste, vous aurez votre guérison. Parlez sur les autres. Colporter des histoires fausses exagérer, rapporter une histoire à travers ce que vous avez entendu de la deuxième personne, troisième personne, sixième personne, dixième personne. Vous n'êtes pas juste quand vous faites cela. Car alors que cette histoire passe de bouche à oreille, elle est de plus en plus déformée. Ce n'est pas aimer son prochain. Comment le chrétien pêche-t-il? Comment? Eh bien, je vais vous le dire, en ne marchant pas dans l'amour. Si je prie et qu'il n'y a pas de réponse à ma prière, je dois m'examiner devant Dieu avec honnêteté et faire un changement dans ma vie. Frères et sœurs, je sais que certaines fois nous avons des problèmes qui nous tombent dessus, des choses terribles, nous ne savons pas où aller. Jetons tout cela au pied de la croix, car si nous les gardons, ces calomnies, ces paroles mauvaises, tout ce qu'on dit sur nous et qui est faux, si nous les gardons, l'amertume sera là. Jetons ça au pied de la croix et sortons de la présence du Seigneur avec un cantique dans notre bouche. Ce poison ne nous fera pas de mal désormais. Prions pour celui qui nous calomnie. Prions pour lui et aimons-le. Frères et sœurs, aimons même nos ennemis. Nous leur ferons du bien en répondant à leurs sottises par l'amour. Dieu alors répondra à nos prières et nous serons guéris de toutes nos maladies. Notre vie sera une vie de qualité, sera une vie de santé, sera une vie en abondance, sera une vie de force, sera une vie de joie, sera une vie de paix, sera une vie de longévité. Pour sa seule gloire, vivons cette vie-là. Il y a un grand bénéfice en marchant dans l'amour. Qui va rejeter le bénéfice? Qui? Baissons la tête. Nous sommes devant toi, Seigneur. Trop souvent, Seigneur, notre vie spirituelle est de qualité médiocre. Trop souvent, notre vie spirituelle est de qualité faible. Et nous sommes incapables d'influencer notre entourage, Seigneur, parce que nous ne marchons pas dans la piété. Cette piété qui est plus excellente que tous les exercices physiques et corporels. Seigneur, nous voyons les gens de ce monde pour avoir une médaille éphémère, un titre éphémère. Sont capables de passer des journées entières, des mois entiers, des années entières à s'exercer pour seulement quelques années de performance. Et nous, Seigneur, donne-nous de nous exercer à la piété qui est l'amour du prochain, qui est l'amour de Dieu, la piété qui est l'obéissance à Dieu. Aide-nous, Seigneur, à maîtriser ce petit membre qui est dans nos corps, duquel Jacques nous dit qu'il enflamme la gêne. Ce petit membre, si petit, c'est vrai, mais qui est capable d'incendier des forêts entières. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Aide-nous à vivre notre vie chrétienne. Peut-être que beaucoup d'entre nous, nous avons des problèmes avec ce petit membre. Nous avons dit des choses que nous n'aurions pas dû dire. Nous avons répandu autour de nous des paroles qui nous ont été confiées. Et nous les avons répandues de façon tendancieuse, cherchant à nous mettre en valeur plutôt qu'à pardonner, à aider l'autre. Nous n'avons pas su garder le secret. Nous avons parlé d'histoires de deuxième main, troisième main, dixième main peut-être encore. J'ai entendu dire que... Et il n'y avait aucune utilité à cela. Et nous avons fait du mal. Nous avons un problème avec notre langue. Et la qualité de notre vie est médiocre à cause de ce poison. Toi qui as un problème avec ta langue, lève-toi maintenant et demande pardon à Dieu. Qu'il te donne la force de ne plus te laisser dominer par cette langue. Cette langue qui dresse les uns contre les autres. Cette langue qui exprime la jalousie. Cette langue qui exprime des mensonges, cette langue qui exprime des histoires exagérées, demande pardon à Dieu, demande à Dieu, en te levant, demande à Dieu qu'il te donne la force de dominer cette langue et d'avoir une vie plus longue, oui plus longue, une vie sans maladie, une vie de qualité. Que ta langue n'exprime que la bénédiction et non la malédiction. Il ne peut sortir d'une même fontaine des louanges à Dieu et des paroles injustes et méchantes et sales. Ta langue, qu'exprime-t-elle ta langue?
Qu'est-ce que ta langue, qu'est-ce qu'elle exprime? Peut-être des histoires honteuses qu'on ne pourrait pas prononcer ici devant tous. Ta langue,